présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée. Il ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Envoyer une armée récupérer un corps, c'est trop dangereux.
Et l'usine lui dit, mais c'est le corps d'un héros.
Non, je ne peux pas.
Bien, monsieur.
Elle a raccroché. Cliff est chez lui. Se dit qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Didier est son ami. Il se dit qu'il faut qu'il aille chercher le corps de son ami pour le ramener en France. C'est la moindre des choses qu'il peut faire et décide. C'est de parler de ce projet à M. Franblanc. Il demande un entretien à M. Franblanc qu'il reçoit dans son bureau.
Cliff lui dit, j'aimerais aller chercher le corps de mon ami en Afrique.
Maurice Franblanc réfléchit, lui dit,
vous avez mon accord. C'est une bonne chose. La France ne peut se permettre cette humiliation. Et la Franblanc non plus. Monsieur Dupin est mort pour nous. Nous nous devons, c'est d'aller chercher son corps et de l'honorer. Allez-y, jeune homme.
Merci, monsieur.
Monsieur Franblanc lui dit encore, avant de quitter la France, nous convoquerons la presse.
Et Cliff décide de partir le plus vite possible. Il dit à Franblanc qu'il part dans une semaine. ne dit rien à personne, parce qu'il se dit que cette histoire ne regarde que lui et Didier, son ami. Le préparatif dure une semaine. Et une semaine plus tard, il va à l'aéroport. À l'aéroport Charles de Gaulle. Malheureusement, pour prendre un avion militaire pour aller en Afrique sur les lieux du combat. À l'aéroport, avant qu'il n'embarque, malheureusement, les médias ont été prévenus. Télé, radio, presse. Cliff reçoit la presse dans le salon de l'aéroport. Reçoit la presse dans le salon de l'aéroport. Il leur dit, je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Je dois partir en Afrique pour aller récupérer le corps de mon ami, Didier Lupin, pour que les honneurs lui soient rendus. Un journaliste lève la main. Il fait, oui. Bonjour monsieur, je m'appelle Pierre Marx. Je fais une émission sur Radio C à l'écoute du monde. J'aimerais savoir comment vous allez prendre le corps de Monsieur Dupin. Il lui dit, je ne sais pas, mais plus s'il faut se battre, je me battrai. Pierre Marx lui demande, jamais battu jusqu'à présent. Il lui dit, ici et même en Afrique. Pourquoi êtes-vous resté ici? Pourquoi n'êtes-vous pas parti plus tôt? Il lui dit, parce que j'avais autre chose à faire. Pierre Marx lui demande, vous devez vous sentir un peu coupable de la mort de votre ami, car lui est mort en combattant, tandis que vous, vous êtes ici. Puis il fut dit, j'ai participé à la guerre. Mon ami, et j'ai perdu ma fiancée. Je vous remercie. Voilà, la conférence de presse est finie. Il faut que j'y aille. Merci. Il se lève, les journalistes courent et crient. Des photos, des photos. Cliff va prendre son avion. Ne savait rien et furieuse. Elle va voir le Mans Noir. Vous qui l'avez fait partir là-bas?
Non, bien au contraire. Je suis contre son départ. Parce que si c'est lui le prétendant, il va risquer sa vie pour un corps mort.
Judith lui dit, je vais voir Franblanc.
Elle va voir Maurice Tremblant à son bureau.
Elle demande, c'est vous? Vous êtes au courant du départ de Cliff?
Oui, et il m'en a parlé, j'ai trouvé la chose bonne. pour nous et la France. »
Elle dit furieuse.
« Et s'il lui arrivait quelque chose ?»« Un mort de plus ou de moins, c'est la vie. » »«
Vous avez fait une grave faute, monsieur. » »«
Je suis le président. »
Mais l'usine apprend que son fils est parti pour l'Afrique. Se dit que c'est l'homme en noir qui lui a dit d'y aller. Parce que... elle lui a poussé, lui a demandé le retour de Didier. Et se dit, mon fils, est-ce que la mort ? Madame Dupin est toujours chez elle. Elle aussi, elle apprend le départ de qui ? Elle pense que c'est Musine qui a demandé à son fils de partir chercher le corps de son fils. Elle dit, vous en serez toujours reconnaissante. Reconnaissance, madame, au courtois. Musine aux ses épaules. Elle dit furieuse, vous êtes seule ? Moi, demandez à mon fils de risquer sa vie pour un cadavre.
Le corps de Didier est toujours à la même place, au pied de la ville, gardé par des soldats que pour que personne ne le touche. Le corps se décompose. Pourri, des insectes, des vers de terre, il y a des charognards, oiseaux et autres qui tournent autour de lui. D'autres corps, des batailles, sont ramassés de suite, n'ont pas le temps de se servir des charognards. Mais là, ils voient un corps qui reste sur place, ça les attire. Les deux armées continuent à se battre. Et les Occidentaux, avec moins d'entrain que les autres, qui ont plus de fougue, ils ont tué leurs plus grands ennemis et sont plus forts. Cliff arrive sur le champ de bataille en jeep. Ils savent que c'est un jeune homme courageux. La vue de Cliff redonne courage aux soldats et à leurs chefs qui ont toujours peur des Africains. Cliff, qui n'est pas un soldat, dit qu'il vient seulement récupérer le corps de son ami et pour cela, il doit se battre. Le lendemain, on lui donne des armes et un costume. Il va se battre avec les autres autour de la ville. Il se bat comme un lion. Il a repris ses gestes de guerre. Se protège et attaque. Fonce sur les hommes, le poignard à la main. Et les égorge. Se bat dans la poussière, la chaleur. La bataille est dure. Ce que les ennemis savent qui est Cliff et veulent tous se battre avec lui. Cliff, en se battant, se rapproche du corps de Didier. Il le voit de loin, mais ne peut se rapprocher
parce qu'il est bien gardé. Après plusieurs jours de bagarre, il se rapproche de plus en plus du corps. La bataille est dure. Le sang gicle. Et glisse et triple. Réussit, grâce à sa souplesse, à se défendre. Et il doit faire très attention.
Je ne vois qui sait que Cliff est là. Et ce qu'il fait parce qu'il veut reprendre le corps de Didier, dit à John. Ce que j'ai fait à son ami, je vais le faire à lui. Je ne veux pas qu'il devienne un dieu. Ce petit blanc-bec, je le veux, je l'aurai comme l'autre.
Elle lui dit, je serai fier d'avoir un mari, un homme comme toi. Oui, vas-y.
Elle est ivre. Ivre qu'un homme se batte pour elle, parce qu'elle pense qu'il se bat pour elle. Mais Genois ne pense plus à elle. Il va se battre pour lui, pour son orgueil. Pas pour Jean. John n'est qu'une femme, il n'y a rien d'autre.
Cliff, pour se battre plus près de la ville, prend une jeep. Il conduit lui-même. Il fonce avec sa jeep jusque vers la ville. Les guerriers qu'il rencontre sur passage foncent comme un fou. Et ils voient qu'il a sur sa jeep une mitraillette. Arrivé vers la ville, la porte de la ville s'ouvre et sort une jeep aussi conduite par Genevois. Je vois Cliff qui est sur une jeep et qui fait la même chose que lui. Je le vois fonce sur lui. Cliff a eu tout juste le temps de tirer. Et tourne à droite. Je le vois. Du coup, après, Cliff se dit, puisqu'il veut... Puisqu'il veut la bagarre, il aura celui-là. Et il court après lui. Il fonce dans le sable. Je le vois, le vois. Tout d'un coup, Cliff a freiné. Il tourne. En fonçant sur Genevois. Les deux voitures se font face. Ils s'épient. Ils ont tous les deux la fureur de cogner sur l'autre. Mais Cliff a plus de sang-froid. Alors il tourne, il se met de côté, puis fonce. Et roule. Ils sont roue contre roue. Ils se cognent, côte à côte, voiture contre voiture. Elle se cogne, se déséquilibre l'autre. Tout d'un coup, Cliff voit qui conduit
si je ne vois celui qui a tué son ami. Alors, ivre de haine, de terreur, s'empare de lui. Et cette haine lui donne une force surhumaine. Il lâche son volant, alors que sa voiture roule à vive allure, et d'un bond, il saute sur la voiture de Genevois. Il tombe sur le siège arrière. Sa voiture part en zigzag et s'est arrêtée. Cliff est dans la voiture de Genevois qui file à vive allure. Il était dans le siège arrière où il est tombé. Il prend par derrière Genevois. Qui conduit. Genevois sans qu'on le prend par derrière. Lâche le volant. Pour sortir de l'emprise de l'agresseur. Sa voiture file, roule en zigzag. Les deux hommes sont l'un contre l'autre. Cliff ne veut pas le lâcher. Il a un poignard à la main. Genevois, d'un geste de coude, fait lâcher Cliff. Il le lâche. Ils sont tous les deux debout. Sur la voiture, sur la Jeep, la voiture qui file à vive allure, se font face, chacun prend un poignard, chacun fait le geste de poignarder l'autre, mais l'autre se retire. Cliff est furieux, sa haine est de plus en plus grande, ni l'un ni l'autre ne veut se rendre compte que le mouvement de la voiture les déséquilibre et que c'est difficile pour se tenir debout. Cliff crie à Genevois. Je m'en vais te tuer comme tu as tué mon ami. Mon seul ami. Et d'un geste de rage surhumain, il plonge sur Genevois pour le voir qu'il peut l'imiter. Cliff est sur lui. Genevois veut sortir de son emprise, mais ne peut. Il se débat comme il peut. Mais les gestes de Cliff, la vengeance de Cliff, la rage de Cliff lui donnent plus de force. Ça a augmenté sa force. Il maintient bien Genevois sur lui, d'un geste brusque, lève son poignard et l'enfonce dans la poitrine de Genevois. Ah ! Le sang gicle sur le visage de Cliff. Il enfonce plus profondément le poignard pour être sûr qu'il soit mort. Genevois ne bouge plus, les yeux et la bouche grande ouverte. Alors Cliff, pris d'une folie de vengeance terrible, prend le volant pour arrêter la voiture. Il se jette sur le corps de Genevois, le jette à terre, point de corde qui est dans la Jeep, et saute de Jeep. Là, il tire le cadavre à l'arrière de la voiture. Avec la corde, il lui attache les pieds et attache la corde sur la Jeep pour le tirer. Entre dans la Jeep et la met en route. Il fait le tour du champ de bataille. Entouré de corps, de blessés. Le corps de Genevois est tiré par la voiture. Il traîne dans le sable.
lorsqu'il voit le corps de Genois, l'ennemi. Lève les mains. On décrit de douleur. On peur. On a tué leur chef. Les Occidentaux crient victoire. Puis, Cliff arrête sa cible. Laisse le corps, comme il est accroché, et crie. Que personne ne touche à ce corps. Il a tué mon ami. Et a laissé son corps au charognard. Lui aussi aura le même destin. Puis, il s'en retourne. Sans retour, personne ne touche ou ose toucher le corps. Cliff donne l'ordre qu'on garde le corps comme ça. Il est félicité comme un héros. Mais Cliff est triste. Il se dit que ça ne ramènera jamais son ami à la vie. La ville est consternée, pleure son chef qui est mort. Le père est enragé contre Cliff. Jeanne a peur et se dit que c'est fini pour elle. Sa belle famille va la tuer, ou les autres. Elle se dit qu'il doit savoir qu'elle était fière que son amant ait tué Didier. Ça ne se pardonne pas, ça. Jean, dans la ville, on la déteste de plus en plus. Et on se dit que c'est, tout ça, c'est de sa faute. Jean porte le deuil. Mais elle reste chez elle. Père de jeune homme, qui a grande peine que son fils soit mort, ne voulait pas que cette guerre stupide se fasse. On voit des remparts de la ville, le corps de son fils, attaché à une voiture. Dans la poussière, ensanglanté dans la poussière. Ça lui fait mal. Alors, il dit à sa femme, je ne supporte pas de voir le corps de mon fils comme ça. J'ai décidé d'aller voir les Occidentaux et de leur demander le corps, mon corps, en échange de celui de Didier Lupin. Alors, le pauvre père, qui est un vieillard, sans rien dire à personne, la nuit, il sort de la ville. par une porte déruée, en évitant d'être vu, là, vers le camp ennemi. Arrivé vers le camp ennemi, le soldat l'arrête.
Vieillard lui dit, je ne suis qu'un vieillard, et je n'ai pas d'armes. Je suis venu négocier un marché avec Cliff pour qu'il me rende mon fils. L'homme le fouille, comme c'est un pauvre homme et un vieil homme. Il a pitié de lui. Il le mène à une tente et le fait asseoir. Je vais chercher Cliff. Reste ici. Le soldat va au campement de Cliff. Il y a un garde. Il y a un homme qui demande à parler à Cliff. C'est très important. Le garde entre dans la tente. Cliff dort. Il le secoue en tapotant le bras. Cliff sursaute et demande, que se passe-t-il? Le garde lui dit, il y a un garde qui veut vous parler. Il paraît que c'est quelque chose d'important. Cliff se lève. Il est en caleçon. J'arrive. Et il s'habille. Il garde. Il lui dit, il y a un homme qui est le père de celui que vous avez tué. Il veut vous parler. Il lui dit, bon, je vous suis. Il va dans la tente où est le vieillard. Lorsque le vieillard le voit, il se lève. Il lui dit, je t'écoute. Il lui dit, je suis le père. Je le vois. Aie pitié de moi. Je suis comme vieillard. Rends le corps de mon fils et tu auras celui de ton ami. Aie pitié de moi. Toi aussi, tu souffres. De la même façon que moi. Aie pitié d'un vieil homme qui n'en a plus pour longtemps. Tu dois me comprendre puisque tu souffres. Il lui dit, moi aussi, nous sommes semblables dans la même douleur. J'ai pitié de toi parce que je comprends ce que tu ressens. Demain, tu prendras le corps de ton fils et tu m'emmèneras en même temps le mien. Le vieillard lui dit, merci. Tu es bon. Il lui dit, non, je refuse. Ton amitié, je t'attends. Demain matin, avec le corps de Didier, moi j'aurai celui de ton fils. Nous donnons rendez-vous devant les portes de la ville. Cliff le laisse, le soldat ramène le vieillard au campement. Le blesse jusqu'à la limite du campement pour aller dans la ville. Cliff, le lendemain matin,
laisse le champ. Je dois voir le chef des armées pour une trêve, pour l'échange des corps. Le père de Genevois dit la même chose à l'armée de la ville. Ce matin, le champ de bataille est vide. Pas le moindre bruit, sauf celui du vent. Les hommes de la ville mettent le corps de Didier sur un brancard. Les soldats, les Occidentaux, mettent le corps de Genevois sur un brancard. Cliff, seul, avec les hommes qui portent le brancard, va vers la porte de la ville et attend. Arrive à eux le vieillard et le brancard porté par des hommes. Les deux brancards sont mis l'un près de l'autre. Le vieillard lui dit « Voilà ton corps !» Cliff lui dit « Voilà le tien !»« Je te remercie, vieillard !» Le vieillard lui dit « Tu vois, le fruit de la haine des hommes. Pourquoi se battre? Pourquoi tant de pleurs, de haine? Les hommes depuis toujours sont fous d'orgueil et de haine. Et l'orgueil et la haine ne leur apportent que les larmes. Larmes d'un père pour son fils, d'une femme pour son mari, d'un mari, un ami pour un ami. Personne n'est gagnant. Tous sont perdants. Car tous ont perdu quelqu'un, quelque chose. Et puis, tu sais pourquoi? Pour rien. Moi, un vieillard, à qui la mort attend, je pleure la mort de mon fils, et en même temps, son orgueil qui l'a mené à la mort. Cliff lui dit, je te comprends, vieillard, il n'y a aucune haine contre toi. Prends ton fils, et moi je prends mon ami. Ferons une trêve pour les funérailles de nos morts. Les brancardiers changent de position pour prendre le brancard de l'autre. Le vieil homme suit le brancard, entre dans la ville où est prévu les funérailles de son fils. John y participera. Un grand deuil. Les gens sont de plus en plus courroucés contre elle. Cliff amène le corps. Il les dépose dans une tombe, dans une tente, pour le faire embaumer. Regarde le corps de son ami, défiguré, déchiqueté. Il est à moitié pourri. Il pleure et dit, tu m'étais l'être le plus cher au monde. J'ai de la peine de te voir comme ça. J'ai de la haine contre ceux qui m'ont donné ton corps. Et qui l'ont donné avant aux charognards. Cliff reste dans la tente. Puis, les médecins viennent pour embaumer le corps. Ils cachent les plaies avec du PVC sous. Ils mettent un masque au visage de Didier, pour cacher la tête qui a été à moitié mangée par les insectes. Le masque représente bien le visage de Didier, maquillé, avec une perruque, habillé de propre, le reprend forme humaine. Cliff est très ému. Puis, il y a une chapelle ardente où les soldats peuvent venir lui rendre un dernier hommage.
Ça, mon vieux, c'est très vite.
L'armée lui donne les honneurs. Le corps est mis dans un cercueil plombé. Toute l'armée est là. Le cercueil est mis dans une jeep. Cliff est derrière la jeep. On va mener le corps à un avion qui le ramènera en France. Cliff va l'accompagner. L'accompagne est très ému. Durant le trajet, il reste près du corps de son ami. L'avion a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle. Il y a du monde, les gardes républicains, le président de la République, le groupe Franc-Blanc au complet, et bien entendu la mère de Didier et celle de Cliff. Les gardes républicains sont au garde à vous. On sort le corps de Didier dans un cercueil recouvert du drapeau français et déposé sur une jeep. Cliff sort de l'avion et entre dans la jeep. Le corps est mené en grande pompe à Notre-Dame pour une messe solennelle. Tout le monde suit le cortège. On entouré des gardes républicains. Cliff est devant avec la mère de Didier et sa mère. Jean Trajet, la mère de Didier, dit à Cliff.
Mon fils avait fait une demande avant de partir. Il m'avait dit que s'il décédait, il voulait être incinéré et que ses cendres soient répandues mais au lac de Montrion. Il lui dit, je le ferai, je vous le jure. Elle lui dit, t'as raison de le faire, je voulais que ce soit toi, et je me demande pourquoi le lac de Montrion. Cliff lui dit, sûrement parce que c'était nos dernières vacances ensemble, avant les ennuis, la fin de notre paradis, de notre jeunesse. Notre-Dame, il y a une messe.
Un discours du président de la République, Marc Girardon, de Maurice Tremblant. Ensuite, le corps est mené à l'incinérateur de Paris. Présence juste de Cliff de la mère de Didier.
nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Pierre. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.